Bonjour Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous allons avoir une deuxième séance sur la Lectio Divina, qui est le thème que vous avez choisi ce mois-ci de nous partager. Donc la dernière fois, nous avions vu qu'est-ce qu'était la Lectio Divina, comment la pratiquer, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans sa dimension de prière et de méditation. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir plus en détail l'importance et puis les différentes étapes de cette Lectio Divina.
Oui, l'importance de lire la parole de Dieu, l'importance de la méditer, d'écouter, d'accueillir cette parole comme une parole vivante et non pas simplement un texte écrit. De passer de la lecture d'un texte à un dialogue avec le Seigneur, un dialogue vivant avec le Seigneur. Saint Césaire d'Arles, qui était notre voisin, disait... Ce petit texte que je vous cite parce que je le trouve très significatif, il écrivait « Les cultivateurs s'efforcent de semer différentes sortes de semences afin de pouvoir se préparer une nourriture suffisante pour eux-mêmes et les leurs. Combien plus, lorsqu'il s'agit de bénéfices spirituels, ne devez-vous pas vous contenter d'entendre lire la parole de Dieu à l'Église ? Vous devez prolonger la lecture sacrée dans vos maisons au cours de vos repas. » Et quand les jours sont courts, y consacrer encore quelques heures de la nuit, c'est ainsi que vous pourrez amasser un froment spirituel dans le grenier de votre cœur et ranger dans le trésor de vos âmes les perles précieuses des Écritures. Donc, il conseillait déjà à l'époque aux chrétiens, de, une fois rentrés à la maison, de reprendre la lecture de l'Écriture qu'ils avaient entendue à la messe, pour nourrir leurs âmes de la même manière que les cultivateurs engrangeaient la semence pour pouvoir nourrir leur famille.
Donc c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse après la messe du dimanche, après le café, reprendre l'évangile et reméditer finalement la parole qu'on a entendue le matin.
J'ai déjà vu ça, figurez-vous, dans des familles. Une fois, j'ai été invité dans une famille... Après la messe du dimanche, et avant de prendre l'apéritif, figurez-vous qu'on a, avec les parents et puis les quatre filles, on a repris le texte du jour, et on a prié autour de ce texte. Je ne m'y attendais pas du tout, j'ai trouvé que c'était très beau. Saint Jean Chrysostome aussi, il dit, quand vous rentrez à la maison, vous devriez prendre l'écriture, et avec votre épouse et vos enfants, relire et répéter ensemble la parole écoutée à l'église. Rentrez à la maison et préparez deux tables, l'une avec les plats de la nourriture, l'autre avec les plats de l'écriture. Que le mari répète ce qui a été lu à l'église. Faites de votre maison une église. C'est très beau ça.
Faites de
votre maison une église. Ça veut dire que la parole vienne jusqu'à votre maison et qu'elle illumine le lieu où vous habitez. Pour que justement ce lieu, ça soit aussi le lieu où on mange, où on vit, où on fait des tas de choses, mais aussi où la parole de Dieu est méditée.
Ça fait penser un peu au modèle judaïque, un peu, effectivement, où on y a vraiment une méditation de la Torah, et voilà, où la parole de Dieu est au centre de l'église domestique, si on peut dire.
Exactement, ouais. C'est tellement important. C'est pour ça que j'en parle de la Lectio Divina, parce que... On a besoin de faire rentrer, si je puis dire, la parole de Dieu, la faire quitter l'Église, si je puis dire. Il faut l'entendre à l'Église, mais qu'elle entre dans nos cœurs et qu'elle entre dans nos maisons et que ça soit aussi... Et figurez-vous qu'il y a des gens, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient affiché la parole de Dieu dans leur maison, soit dans des cadres, soit par de la peinture, donc des paroles qui les avaient touchées. Par exemple, l'évangile du mariage, j'ai vu des gens qui avaient
encadré chez eux, comme une décoration.
Ou bien même, vous savez, parfois on peut faire ça sur Internet, c'est des choses qui se collent, donc directement sur le mur, en grand format. Ouais. C'est très beau, un petit peu comme dans des monastères. Il y a des monastères où il y a la parole de Dieu qui est peinte au-dessus de la porte des cellules, ou bien dans le réfectoire. Donc la parole de Dieu est présente, et elle nous rappelle à Dieu, si je puis dire.
Alors, justement, la Lectio Divina, c'est une lecture personnelle, on pourrait dire individuelle, mais finalement, c'est aussi une lecture en communauté.
Oui. En fait, on ne lit jamais la parole de Dieu seul. On la lit toujours en église, dans l'église, même si on est tout seul. J'aime bien dire que la lecture de la parole de Dieu, elle est personnelle, évidemment, parce que chacun l'accueille comme il est. Mais elle n'est jamais privée, parce qu'elle est personnelle et communautaire. C'est-à-dire que je lis la parole dans l'Église. Je la comprends avec toute l'Église. Pas seulement l'Église de 2024 ou 2025, répandue sur toute la terre, mais l'Église de tous les temps. L'accueil de la parole de Dieu, je l'accueille dans la foi des apôtres. L'Église est apostolique, donc les apôtres ont reçu les paroles de Jésus, ses miracles, ses libérations, ses guérisons, et ils en ont témoigné. Et dans la foi, nous pensons que l'Église nous transmet cela. C'est la tradition, c'est-à-dire que nous lisons l'Écriture, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons l'Écriture dans la tradition de l'Église. La tradition, ça veut dire la transmission. C'est-à-dire que de génération en génération, nous transmettons la parole de Dieu comme un dépôt qui nous a été livré, comme un trésor, et puis nous communiquons ce dépôt aux générations qui sont en dessous de nous, donc aux enfants, aux ados. Et donc c'est comme ça que nous transmettons la parole de Dieu de génération en génération, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, dans la tradition de l'Église. Ça, c'est très important, parce que sinon, on peut utiliser la parole de Dieu et en faire ce qu'on veut. Bon, on peut la manipuler, l'utiliser pour justifier nos propres projets. Et donc, disons que l'Église, elle nous aide à nous mettre en condition pour recevoir une parole. Et c'est une parole qui va nous toucher, c'est une parole qui va nous faire grandir, c'est une parole qui va nous convertir. Mais il n'y a que l'Église qui puisse assurer que nous ne manipulons pas la parole de Dieu à notre gré.
Et je reviens aussi sur ce que vous disiez sur la messe du dimanche, parce qu'en fait, la messe du dimanche, parfois on peut être très, peut-être nous les catholiques, très centrés sur l'Eucharistie, qui est un moment extrêmement fort dans la messe, qui est un moment central. Mais il y a aussi cette première partie très importante de la lecture de la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire, il y a ces deux pivots dans la messe. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir peut-être après reprendre le temps de la méditer, cette parole, parce que parfois on arrive le dimanche, il y a les enfants, on manque d'attention aussi sur cette parole, alors qu'on a peut-être plus centré ou plus silencieux au moment de la consécration de l'Eucharistie.
Oui, on commence la messe par la louange qui monte vers Dieu, par le rituel de la pénitence, pour préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu et à recevoir le Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie. Et ensuite, on laisse Dieu parler. Dans ce dialogue, ça, c'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Et puis, ensuite, il y a le commentaire du prêtre, justement, qui nous aide à comprendre le texte dans l'Église. Ça, c'est le moment de l'écoute. Et puis, il y a le moment de la réponse. Et la réponse, elle se fait de deux manières. D'abord, en récitant le credo, qui est vraiment l'acte de foi qui nous relie les uns aux autres. C'est une formule, un formulaire, si je puis dire, mais qui nous dit, ouais, nous proclamons la même foi, alors que nous avons des vies tellement différentes, nous nous accordons pour dire que nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est la première réponse, cette réponse communautaire. Et puis la deuxième réponse, qui est la prière universelle. Ça veut dire qu'en réponse à la parole de Dieu, nous faisons monter notre prière vers le Seigneur. Et tout cela nous prépare à la célébration de l'Eucharistie, parce que c'est le Verbe qui se donne dans la parole de Dieu qui est lue, et c'est le Verbe qui se donne sur l'autel de l'Eucharistie. Et donc il y a vraiment une grande cohérence dans le déroulement de la messe. Mais comme vous dites, si on a un rapport trop cérébral à la parole de Dieu, on risque de passer à côté.
Ouais, c'est pour ça que prier l'Esprit Saint pour à chaque fois qu'on écoute ou on entend la parole de Dieu, c'est dire voilà, Seigneur, ouvre mes oreilles, de mon cœur, de mon intelligence, de tout mon être en fait, pour être vraiment réceptif à cette parole.
Oui. Ouais. Oui, le Seigneur vient justement nous visiter, vient dans nos vies par sa parole, par ses sacrements. Il vient comme nous renouveler, comme nous nourrir. Donc c'est cette sorte de double nourriture, mais en fait c'est le même Christ qui se donne, qui se livre dans les Écritures et sur l'autel. Et nous repartons justement nourris sacramentellement pour que notre messe puisse continuer. Bon, je dis parfois, c'est une de mes expressions, que Notre semaine est une messe continuée. La messe ne se finit pas au moment de la bénédiction du prêtre, mais nous sommes envoyés pour que le Christ qui nous a nourris intérieurement, eh bien, nous vivions avec lui le lundi, le mardi, le mercredi, de sorte que cette offrande de nous-mêmes vécue à la messe, nous la continuions dans le concret de notre existence, par la grâce de l'Esprit-Saint.
Très bien, c'est très beau. Alors, concrètement, hein, sur la Lectio Divina, toujours plus dans le concret, on va dire, comment la pratique-t-on ? Il y a beaucoup d'auteurs qui insistent sur la nécessité de se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différentes étapes ?
Oui, alors on a distingué des étapes. Là encore, comme je le disais la première fois, non pas pour en faire une technique, non pas pour en faire une recette, mais pour nous aider à entrer dans ce dialogue vivant avec le Seigneur. Et donc, quand on a distingué des étapes, c'était pour nous accompagner, un petit peu comme un enfant fait des gammes, si je puis dire, un peu comme une grammaire, pour que ensuite ça devienne naturel. On fait un peu de grammaire au départ, mais quand vous parlez, vous ne
réfléchissez plus si on utilise le subjonctif ou l'indicatif.
Voilà, et si c'est un complément d'objet direct. Mais comme vous avez appris tout ça, ensuite, vous le faites, c'est comme un pianiste qui a fait des gammes et puis ensuite qui, naturellement, joue une sonate. Bon. Je dis ça parce que il faudrait bien que les auditeurs ne pensent pas qu'on est dans l'ordre simplement d'un savoir-faire.
D'accord.
Et que on est en train de donner des étapes chronologiques. Parce qu'on va dire des étapes, mais ensuite, il n'y a pas vraiment de chronologie. Ce n'est pas comme s'il fallait faire les étapes les unes après les autres, avec 10 minutes pour chacune. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. N'empêche que ça nous aide à avancer. C'est Guigues, le chartreux, nous a aidés dans sa lettre sur la vie contemplative à distinguer ces étapes. Et du coup, je pense que ça devait servir aussi pour les jeunes moines. Hein, c'était un moine chartreux. Et pour les jeunes moines, comment est-ce qu'on les conduisait à la méditation de la parole de Dieu, qui est vraiment la grande activité d'un moine, si je puis dire. Donc, c'est normal que ce soit par l'intermédiaire des contemplatifs que sont les moines qu'on entre dans la lectio. Et la première chose, c'est évidemment de demander l'Esprit-Saint. Alors on appelle ça l'épiclèse, c'est un mot grec qui désigne ce geste d'imposition de la main du prêtre au moment où il va consacrer le pain et le vin, et puis où un évêque consacre un prêtre. Donc c'est un geste très ancien, l'épiclèse, c'est la demande de l'Esprit-Saint. Et donc on pourrait dire que tout commence en demandant l'Esprit-Saint, par un chant, par une prière qu'on connaît, simplement par des mots à nous, on demande à l'Esprit-Saint d'être le maître intérieur, à l'Esprit-Saint de conduire notre lecture, tout simplement parce que, comme on l'a déjà dit, l'Écriture est inspirée par l'Esprit-Saint. L'Écriture, elle a été écrite par des vrais auteurs, donc par des gens réels, et dans des styles littéraires extrêmement différents. On peut avoir des poèmes, on peut avoir des récits historiques, on peut avoir des sentences de sagesse. Voilà. Donc ça, c'est le genre littéraire. Mais quel que soit l'auteur, quel que soit le genre littéraire, cette écriture est inspirée par l'Esprit-Saint, justement. Donc nous confessons cela. Et c'est pour ça que c'est un acte de foi, d'abord, la Lectio Divina. Vous avez des tas de gens qui lisent l'Écriture comme simplement une parole de sagesse, non pas sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, mais parce que ça les intéresse. Et ils font cette lecture, mais pas du tout dans la foi. Ils le prennent comme un texte. Ça pourrait être un texte de Victor Hugo ou de Stendhal. Bref, ils s'intéressent à ce qu'il y a d'écrit. Nous entrons dans l'Écriture dans un acte de foi, dans un acte de prière, et donc sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, dont nous confessons qu'il a inspiré ce texte, qu'il a inspiré l'auteur. Et donc nous demandons à l'inspirateur de ce texte de nous guider aussi et de nous faire comprendre ces paroles du Seigneur pour aujourd'hui dans notre vie. Voilà pourquoi il faut se mettre sous la conduite de l'Esprit-Saint lorsque nous entendons le Concile de Vatican II, en parlant de l'Esprit-Saint, disait « Par la vertu de l'Évangile, l'Esprit-Saint assure la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux. » Voilà, eh bien, c'est vraiment l'épouse qui se met face à l'époux et qui entend la parole sous la conduite de l'Esprit-Saint. Ça, c'est la première, l'épiclèse, c'est-à-dire la demande de l'Esprit-Saint. Et puis ensuite, il faut lire le texte. Hein. Donc, le deuxième moment, c'est la lectio proprement dit, c'est-à-dire la lecture. Pourquoi est-ce qu'il y a ce moment qui est important pour que je fasse attention à ce qui est dit dans le texte, une vraie lecture, quels sont les mots employés, quelles sont les expressions. Parfois, on peut penser que ce texte qu'on connaît, par exemple la parabole du fils prodigue, j'ai déjà lu, je sais ce qu'il y a dedans.
Je connais par cœur, à quoi bon la relire ?
Exactement. Ouais. Donc la lecture, c'est s'arrêter, voir les petits détails. Par exemple, dans Saint-Marc, il y a une tempête sur le lac, et puis Marc dit, et Jésus dormait sur un coussin à l'avant. Pourquoi est-ce que Jésus dort ? Alors, vous voyez, on peut partir tout de suite sur le récit global, mais on peut aussi s'arrêter aux détails. Pourquoi est-ce que dans la multiplication des pains, Marc précise que l'herbe est verte ? Alors, ça nous fait penser sur des prés d'herbe verte, il me fait reposer. Donc, souvent, il faut s'arrêter aux objectifs, il faut s'arrêter au texte. Si on a une Bible de Jérusalem, ou bien une traduction œcuménique de la Bible, par exemple, il y a des notes. Et donc, et dans la Bible de Jérusalem, il y a des renvois à d'autres passages, y compris de l'Ancien Testament. Ça nous permet de comprendre
les références.
Pourquoi, par exemple, la femme qui a des pertes de sang, elle touche le manteau de Jésus, elle touche les franges de son manteau. Ouais. Parce que les franges, c'était un signe de la fidélité du peuple à la loi. Et donc, elle touche ce qu'il y a de central dans la vie de Jésus, c'est-à-dire l'alliance de l'humanité avec Dieu. Donc la lecture, c'est prendre le temps de lire, peut-être d'aller chercher dans d'autres passages de l'Écriture, peut-être, parfois on ne comprend pas un mot. Moi, il y a des mots que je ne comprends pas très bien, donc je vais chercher, je fouille.
Est-ce que c'est justement aussi se projeter en images, c'est imaginer? Alors, j'avais fait une retraite Saint-Ignace, les exercices Saint-Ignace, où on nous dit, faut vous imaginer, quand c'est savoureux, on s'arrête.
Oui, on se représente la scène.
Voilà, on se représente la scène, comme si on y était, dans la barque avec Jésus, qui est en train de dormir, et puis nous, on est paniqués, et quelque part, se transporter un petit peu aussi, nous-mêmes, dans la scène.
Oui, c'est très bien. Alors, ça peut parler à certains et moins à d'autres. Donc... Oui, il faut. Je crois que ça peut être un bon moyen d'entrer dans le texte, de ne pas aller trop vite en se disant « je connais déjà ». Parce que parfois, il y a aussi des détails qui nous apparaissent. On se dit « mais ça, je n'avais jamais vu ça. C'est la première fois que je me rends compte que le Christ parle de cette manière. Ou c'est la première fois que je me rends compte que les apôtres ont posé cette question à Jésus. » Et donc... je crois qu'à travers ces mots de l'Écriture, l'Esprit-Saint renouvelle aussi notre approche de l'Écriture.
Ouais, et notre intelligence. Merci Monseigneur pour tous ces éclairages, très intéressants, très nourrissants, pour notre prière de la Lectio Divina.